aujourd'hui, mon invité à Beauté ou mensonge, Rosalie Bonenfant. Salut!
C'est moi! Hey, ça sonne, j'adore ce titre-là. Ça sonne comme une espèce de téléroman... un peu style téléroman... Comment on dit ça?
Un soap?
Un soap.
Un soap, bon, ben j'adore.
J'adore ça.
Fait que je t'invite dans mon soap.
Yes!
Rosalie, on te connaît surtout grâce à tes chroniques à la radio que tu fais à Rouge maintenant, puis que tu as rassemblé dans un super livre la fois où j'ai écrit un livre, un titre d'Adon, tu sais.
Ben c'est parce que je voulais que ça soit quelque chose vraiment sans prétention, mm-hmm. Tu sais. Déjà que mon éditeur m'a comme pas laissé le choix de mettre ma face sur le livre, moi j'avais peur que ça soit quétaine cette histoire-là, puis je me disais c'est toujours bien juste un recueil, tu sais. Fait que je me suis dit on va y aller avec le titre le moins prétentieux. Tu sais, je voulais pas me donner un titre comme si j'avais bûché sur un ouvrage pendant 4 ans. Tu sais, ça reste un recueil. Fait que je me suis dit on va faire ça dans la simplicité.
Je comprends. On t'a aussi vu comme actrice chroniqueuse aussi à la télé. Puis, je trouve ça intéressant, tu es la personne tout indiquée, en fait, pour participer à mon podcast, parce que l'image, c'est quelque chose que tu abordes souvent dans tes chroniques.
Parce que je mens beaucoup aussi.
Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, donc, l'image négative des femmes, l'image négative des gays, des milléniaux, bref, il y a plein de sujets que tu abordes. Fait que je veux qu'on parle de ton image à toi, mais aussi du regard que tu portes sur notre société. Puis pour commencer, je veux revenir à la première fois où on s'est rencontrés en personne.
Oui.
Parce que j'ai eu le réflexe de te demander ton âge. À ce moment-là, tu avais 21 ans.
Ah oui, je m'en souviens même pas de
bon,
toi.
Bon, tu vois, ça t'a pas marqué, mais on dirait que c'était pas la première fois que tu faisais poser cette question-là. Puis ma réaction, ça a été un peu de « Ah ouais, je pensais que tu étais plus vieille que ça ». Puis tu avais pas l'air de triper non plus à ce commentaire-là. J'ai l'impression que c'était pas la première fois. Comment tu le reçois, ce commentaire-là?
C'est parce que je sais pas comment réagir. Tu sais, comme, ma face est vexée, mais mon esprit est flatté. Tu sais, ce matin, on m'a envoyé un colis PR, j'ai reçu des crèmes antirides. Je me disais, bon, le message est passé, vraiment. Mais non, j'ai bel et bien 22 ans. C'est pas quelque chose que je prends mal, tu sais, je comprends que...
Puis ça... on s'entend que c'est pas ton apparence qui est visée là-dedans, là. Tu sais, c'est vraiment, justement, la maturité que tu dégages.
Non, c'est ça, mais moi, je me suis sentie, tu sais... Depuis ma puberté, justement, je me suis tout le temps sentie un peu comme la plus grande de mes amies. Puis, tu sais, moi, j'ai eu ma puberté très, très tard. Je l'ai eu à 16 ans. Fait que moi, tu sais, je les ai attendues en maudit mes règles. Moi, j'avais 7 ans, puis je me traînais des serviettes sanitaires au cas où, tu sais. Finalement, je l'ai bien attendu. Moi, j'ai été complètement plate et sans forme jusqu'à l'âge de 16 ans. Fait que quand c'est arrivé, ça s'est fait comme un choc. J'ai pris, genre, 4 pieds, des seins, tout est arrivé en même temps. Puis, ça a été tough de dealer avec ça. Je me sentais comme plus... J'ai l'impression que mes amis avaient un beau petit corps de jeune adolescente. Puis moi, j'ai eu un corps de femme tout de suite. Puis ça m'a bien challengée. Fait que c'est pour ça que quand on me dit « Ah, t'as l'air plus vieille », pour moi, c'est surtout comme « OK, là, ça commence déjà à dégénérer. »
Ça n'a pas été long.
C'est ça, le déclin est arrivé en même temps que la puberté.
Depuis le début de ta carrière professionnelle, puis évidemment, depuis le début de ta vie, il y a une étiquette qui t'est apposé.
Ah oui, quoi donc?
Je sais pas de quoi je parle. Être la fille de...
Ouais.
Tu travailles avec ta mère, Mélanie Ménard, à la radio, à la télé. Aujourd'hui, le fait que je t'en parle, est-ce que ça tombe sur les nerfs ou c'est quelque chose avec...
Pas en tout, dans le sens où c'est ma mère, tu sais, mm-hmm. C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'admire, je suis pas gênée d'être associée à elle. Comme je dis, tu sais, j'aurais pu être la fille de Salvaille, là, aussi. Il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. Au moins, c'est quelqu'un qui est apprécié, qui est respecté, je pense. Fait que, non, je pense que j'ai fait la paix avec ça. Puis aussi, ça vient un peu avec mon accomplissement personnel. Tu sais, je commence à me réaliser par moi-même. Puis c'est pour ça que ça me dérange moins d'être associée à elle, parce que j'ai autre chose aussi. Tu sais, avant, c'est vraiment que pour ça qu'on me connaissait. Tandis que maintenant, je peux au moins dire comme oui, mais je suis aussi la blonde de Miro Belzile maintenant. Fait que voilà, ça s'est réglé de même.
Puis le fait d'être accompagnée par elle un peu à travers tes projets, tu sais, comme à la radio, à la télé, est-ce que ça, c'est quand même rassurant d'avoir sa mère à ses côtés?
C'est rassurant, mais en même temps, il y a quelque chose de très confortable qui fait en sorte que je me pousse peut-être pas autant que je le ferais normalement. Tu sais, juste à la radio, ma mère, on se le cachera pas, c'est quelqu'un qui prend de la place, qui en impose. Puis on dirait que moi, au lieu d'essayer de faire ma place puis de dire « Regardez-moi, j'existe aussi », j'ai plus tendance à lui laisser son spot. Tu sais, mettons, à la radio, j'ai plus l'impression que c'est moi qui est dans son équipe de travail. Mm-hmm. Tu comprends que c'est mon équipe, mais en même temps, c'est quelqu'un avec qui je m'entends tellement bien que j'ai pas de raison de refuser de travailler avec elle non plus, pour mm-hmm. l'instant, en tout cas.
Mm-hmm. Je veux revenir à ton livre, puis t'en as glissé un mot en introduction. Tu voulais pas que ta face soit sur la page couverture. Tu t'es obstiné avec ton éditeur. Pourquoi tu voulais pas... Là, tantôt, tu disais que ça avait l'air quétaine, peut-être?
C'est parce que... C'est ça. Déjà que c'était un recueil, tu sais, j'écris des chroniques pour la radio, c'est quelque chose qui est arrivé par hasard dans ma vie, mais les chroniques que j'écris, tu sais, ça a beau être mon style, c'est pas nécessairement ce qui me fait le plus triper à lire, moi. Tu sais, moi, je suis vraiment une fan de belles dentelles, de mots tout assemblés, puis de petites proses très romanesques. Ce qui fait qu'en publiant ça, je me disais déjà, c'est un style littéraire qui est moins près de ce que j'ai envie de représenter dans le monde littéraire. Si en plus, il faut qu'il y ait ma face dessus. Moi, j'imaginais ça comme les livres de pharmacie, là, tu sais, un beau fond blanc avec, genre, la fille qui est comme « Hey, v'là mes chroniques! » Fait que j'étais vraiment pas partante pour ça. Puis mon éditeur, justement, m'a dit, depuis le début de ce processus-là, il m'a dit « Ce que Rosalie veut, Dieu le veut. » Il m'a donné tout ce que je voulais. Je voulais des codes QR, il me l'a laissé. Je voulais des... En fait, toutes les demandes que j'ai eues, il me les a accordées. Mais il m'a dit « Moi, le seul point non négociable, c'est que pour la promo, on a besoin d'avoir ta face, tu sais. » Puis il m'a dit « Mais je vais te laisser gérer la DA. Je vais te laisser, tu sais, décider du style que tu veux. » Fait que moi, j'ai dit « OK, je veux un livre noir, très sobre. » Puis au début, la photo que j'ai faite, j'ai appelé mon amie Marie-Ève Lévesque, qui fait pratiquement toutes mes photos en qui j'ai excessivement confiance. Puis ce qu'on avait gossé, c'était une petite photo en bas de page de moi au loin dans un bureau. Puis finalement, ils l'ont rapproché
ah oui, ils l'ont
un
zoomé.
Peu plus que prévu. Mais reste que je... c'est ça. Je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait... Ah, t'as trois caméras, t'es bien équipée.
Je suis vraiment full équipée.
T'es bien riche, surtout. Mais non, c'est ça. Je me suis dit, moi, quitte à ce qu'il y ait ma face, ce sera pas moi bien grimée qui me présente devant mon livre. T'sais, ça va être moi, quand je travaille, je suis en bobette chez nous, en pyjama, en toque, pas maquillée. Puis s'il faut qu'on me voit, c'est ça qu'on va voir. Mm-hmm. Fait qu'au moins, j'ai pu...
T'avais pas envie d'emprunter une voix un peu coach de vie, mettons. Là.
Non, parce que justement, c'est assez ironique que la fille qui publie 67 chroniques moralisatrices, c'est la fille qui a étudié dans rien, puis qui a aucune formation, puis qui a comme, tu sais, un qui pour se prononcer, cette fille-là. Fait que... Voilà, j'ai fait mes choix de pochette de livres, mais malgré tout ce que je peux dire là-dedans, ça reste aux lecteurs de faire leur propre choix.
En tout cas, je te confirme que cette fille-là a une vraiment belle plume. Moi, j'ai ri pendant ton livre, c'est le fun aussi à lire, c'est-à-dire ça amène vraiment une autre vision un peu des sujets que tu abordes. Puis j'ai envie de parler d'un peu de tes réseaux sociaux parce que je trouve que tu joues un peu la fille imparfaite. Puis, en fait, tu sais, on s'entend que la perfection n'existe pas.
Je joue ça. C'est totalement une game parce qu'en réalité, tu serais surpris de savoir à quel point je suis parfaite.
Mais est-ce que c'est calculé, ça, d'avoir une espèce d'équilibre?
Premièrement, c'est un choix qui est paresseux parce que moi, gérer un feed puis télécharger des applications qui font en sorte que, comme, tout match, puis... C'est vraiment parce que moi, honnêtement, premièrement, tu sais, oui, ça fait partie de mes valeurs, mais commencer à télécharger Facetune pour me blanchir les yeux puis les dents, puis chaque affaire avant chaque photo, je trouve ça vraiment lourd. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu comme l'envers de la médaille. Tu sais, c'est un outil d'autopromotion, fait que j'ai pas tant le choix de le garder, mais c'est une pression énorme. Puis à chaque fois que j'ouvre Instagram, ça me fait sentir jamais assez. Puis tout le temps, c'est pour ça que je suis genre 60 personnes. Mais... c'était quoi ta question aussi que je
me
demandais?
En fait, est-ce que c'est calculé, ça, cette image imparfaite?
Je pense pas que c'est calculé, c'est-à-dire que c'est la personne que je suis. Puis c'est tout le temps ce que j'ai voulu garder en tête. T'sais, moi, quand j'ai commencé mon compte Instagram, comme tout le monde, j'avais peut-être 1000 abonnés. Bien, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais une petite poignée d'abonnés. Puis je me disais, bien, j'offre ce que je suis. C'est pas parce que le nombre d'abonnés augmente que je dois compenser en changeant la personnalité pour m'adapter à la demande. Fait que non, j'essaie de rester moi-même, mais en même temps, je suis pas conne, tu sais, je sais que les gens sont contents de s'identifier à ça. Puis la vérité, c'est que moi aussi, des fois, j'aimerais ça en mettre des photos en maillot de bain, faire comme « Regardez, je suis capable d'être cute aussi! » Mais en fait, c'est que des filles belles, puis des filles parfaites, puis des filles à envier, il y en a tellement que je me dis, je pense pas que c'est de ça dont on a besoin présentement. C'est pour ça que je continue, tu sais, dans le sens où je le sais, que je suis capable d'être cute en maillot de bain, j'ai pas besoin que tout le monde le sache, j'ai pas besoin que tout le monde le voit. Puis autant que c'est correct que celles qui veulent faire ça le fassent, puis on a chacun son cheval de bataille, sa propre quête, autant que je pense que c'est important quand même d'offrir autre chose, puis qu'il y ait une alternative aussi, tu sais.
Ouais, puis ça fait en sorte que toi, finalement, dans toute cette belle gang-là de gens qui ont une certaine popularité sur les réseaux sociaux, ben tu te démarques là-dedans.
Mais ça veut pas dire que je les juge pour autant. Tu sais, je les like moi aussi, là, les fesses d'Alicia Moffett puis les seins de Lisande. C'est des bien belles parties, tu sais, dans le sens où j'ai tellement rien contre ça, mais mais je trouve ça beau aussi. Moi, j'ai toujours été attirée par l'espèce de poésie qu'on peut trouver dans l'ordinaire. Tu sais, je suis le genre de fille qui va passer sur une rue avec 28 abri-tempo, puis je vais me dire, aïe, c'est fucké pareil, il y a quelque chose de beau là-dedans. Je pense que mon compte Instagram, c'est un peu ça aussi. Mm-hmm. Elle a des cernes, ses sourcils sont mal placés, mais il y a quelque chose là-dedans qui est un peu... qui est vrai, puis c'est une façon aussi de donner une belle incursion dans ton intimité. T'sais, les gens sont très voyeurs. Fait que de voir de quoi t'as de l'air pas maquillé, puis de voir de quoi t'as de l'air quand tu brailles ou quand tu doutes de toi ou dans ce qu'il y a de plus laid de toi, c'est aussi un accès à ce qu'il y a de plus vrai de toi. Puis ça, je pense que ça vaut la peine de montrer ça des fois.
Depuis le début de ta carrière, on t'a vu dans Les Parents, dans 30 vies, dans Club Mel, dans Sucré Salé. Puis je trouve qu'il y a de quoi être fier de ce CV-là. Mais tu dis qu'être fier, des fois, ça vient aussi avec des jugements. Comment t'expliques ça?
Être fier de soi?
Ouais, que c'est mal vu.
Je sais pas si c'est mal vu, mais moi, je me souviens qu'au primaire, j'ai toujours été une petite fille excessivement confiante. Puis comme, il me manquait mes deux palettes. J'avais des petits cheveux courts, les bras trop longs, puis je me trouvais belle, puis je me trouvais hot, puis je me trouvais donc bien comme... next level. Puis quand je suis arrivée au secondaire, je me suis dit, OK, tout ce qu'on m'a dit, là, le fait que j'étais une fille unique puis spéciale, c'est un peu de la bullshit parce que toutes les autres filles sont uniques et spéciales et belles et talentueuses. Puis à ce moment-là, j'ai pogné mon mur. Puis j'ai vu que c'était comme un peu la mode de se rentrer dedans. Tu sais, la première fois que je suis arrivée dans un vestiaire puis que les filles se changeaient puis étaient comme, oh non, regarde-moi mon bourrelet, oh non, regarde-moi, regarde mon cou, il est pas assez mince. Je me suis dit, OK, ben se trouver hot, là, c'est pas tendance pantoute. Fait que j'ai comme commencé à adopter ce comportement-là jusqu'à ce que finalement je sois complètement pognée dedans pour vrai, puis que je me suis prise à ce jeu-là, puis que j'en arrive réellement à me regarder devant le miroir puis à être frue de ce que je voyais. Puis c'est pour ça que je pense que j'ai comme intégré que la fierté, ça peut être mal vu. Puis à partir de ce moment-là, j'ai tout le temps eu peur de paraître prétentieuse si j'étais fière. Fait que c'est comme si je me suis jamais permis ça. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les accomplissements que je peux réaliser, j'ai de la misère à les célébrer parce que j'ai l'impression que soit que c'est pas mérité ou soit que ça va être vu comme du narcissisme. Puis, tu sais, je sais que c'est plus le cas, puis je travaille là-dessus, mais reste que des filles qui sont fières de ce qu'elles sont, il y en a pas des tonnes. Fait que, ouais, mais c'est un work in progress, comme ils disent.
Mais la comparaison, justement, avec les autres filles, c'est quelque chose qui revient souvent dans les sujets que tu abordes. Puis même récemment, à la radio, tu as parlé d'une fille qui te hantait quasiment. Là. C'est une fille de ton entourage pour qui tu entretenais de la haine. Puis finalement, ça s'est un peu retourné contre toi parce qu'elle occupait beaucoup trop tes pensées. Puis pour régler ça, tu as décidé de la rencontrer et d'y demander pardon.
Oui. Puis elle était trop fine. En fait, c'est une fille que, tu sais, on est un peu dans le même bassin de monde, puis on a tout le temps été comme amis-ennemis. Genre, on a une relation un peu touchée, que comme on s'aime, mais en même temps, il y a de quoi chez l'autre qui nous choque. Puis un moment donné, effectivement, je me suis tannée de me sentir de même. Je me dis, là, ça fait je sais plus combien d'années que je traîne ça, puis qu'à chaque fois qu'on évoque son nom, je me reconnais plus, puis je me suis dit, ça m'appartient pas, ces émotions-là, c'est pas beau, j'ai pas envie que ça fasse partie de moi. Fait que je l'ai appelée, puis j'ai fait comme, hey, je t'aime pas tant, mais tout le monde t'aime, fait que c'est clairement moi le problème, puis j'aimerais ça, tu sais, qu'on apprenne à gérer ça. Puis la fille est trop fine, elle m'a dit, tu sais, j'ai déjà vécu ça moi aussi, allons prendre un café, allons en parler. Puis finalement, on est allé s'asseoir, puis elle m'a dit, tu sais, que je vis la même chose depuis toutes ces années, toi aussi tu me confrontes, toi. Puis on s'est dit, coudonc, finalement, c'est qu'on s'enviait des trucs l'une à l'autre, puis qu'on a mal canalisé ça, puis c'est devenu des émotions laides qu'on traînait pour aucune raison, qu'on a réalisé qu'on n'avait pas besoin de traîner, finalement.
Puis qu'est-ce que ça t'a appris de faire l'exercice de demander pardon? Tu sais, on parlait de ta maturité au début de l'entrevue, tu sais, je trouve que ça en est une belle preuve, là. C'est pas à la mode là, de dire « Ah, je vais aller demander pardon à quelqu'un », tu sais.
Ouais, mais moi, j'ai déjà entendu une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui disait « Ça prend beaucoup de courage pour être heureux ». Puis souvent, c'est plus facile de rester dans nos patterns parce qu'on a peur de se confronter soi-même puis de regarder ce qui nous habite réellement comme sentiment. Des fois, on a tendance à comme discarter ça parce que c'est trop laid puis on veut pas que ça nous appartienne. Mais quand tu réalises que tu le vis de toute façon, ça te rend pas service, tu sais, de le nier puis de le glisser en dessous du tapis. Fait que, en fait, ça m'a surtout apporté une paix avec moi-même de me dire que ça se peut, tu sais, guérir ces bobos-là, puis ça se peut passer à autre chose. Puis en confrontant cette fille-là, j'ai réalisé que tout ce que je m'étais monté comme image d'elle, c'est tellement plus gros que ce qu'elle est, que dans le fond, c'est une humaine, puis que, tu sais, je suis humaine aussi. Puis ça m'a fait un bien fou. Ça on dirait que ça m'a enlevé 15 livres de sur les épaules.
C'est ça. C'est stressant à faire, mais à force de le faire, un moment donné, ça devient plus facile aussi.
Oui, puis moi, je suis quelqu'un d'excessivement perfectionniste dans vie. J'ai souvent pensé que, tu sais, si j'étais pas la meilleure, j'étais rien pantoute, puis que si je ratais, ça veut dire que je pouvais plus rien réussir. Puis je travaille là-dessus aussi. Beaucoup de chantiers présentement dans ma tête. Mais ouais, j'ai réalisé que souvent, j'avais de la misère à avouer mes torts parce que c'était d'admettre que j'étais imparfaite. Puis je me suis dit que finalement, je me rapprochais pas mal plus d'être la personne que je voulais être en mettant les cartes sur table puis en disant « ben je vis ça, j'aime pas ça, j'ai le goût de l'adresser » que de le nier puis de faire comme si ça n'existait pas parce que ça existe quand même, tu sais, même si tu te fermes les yeux, là. Fait que, ouais, ça fait beaucoup de bien.
Quand on te regarde avec ton beau grand sourire, on peut pas nécessairement imaginer quelle vie t'as eue ou qu'est-ce qui est arrivé avant qu'on te connaisse.
Moi, j'avais de le Vietnam. Ça paraît pas, mais beaucoup de trauma.
Puis dans une des chroniques que t'as dites, évidemment, à la radio, puis que t'abordes dans ton livre, « Voyage au centre de ma chair », tu parles de la tentative de suicide que t'as fait en 2015, puis surtout de comment tu t'en es relevé de cette épreuve-là. Je voulais savoir, tu sais, à la fin de ton texte, tu dis que ça t'a libéré de briser le silence, mais dans les semaines et les mois qui ont suivi, est-ce que ça a eu un impact aussi chez toi?
Oui, parce que je sais pas à quel point j'étais naïve cette journée-là. Je me suis dit, moi, je vais lire ma chronique, ça va me faire du bien, puis je vais être libérée. J'avais comme oublié qu'après ça, effectivement, il y aurait bien des sites à potins qui se garrocheraient là-dessus comme des mouettes sur une charogne. Mais la charogne, c'est pas moi, là. C'est mes écueils. Mais premièrement, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui se retrouvaient là-dedans. Tu sais, encore hier, il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram en me disant... Moi, je suis à l'hôpital présentement. J'ai été internée après une tentative de suicide. Puis présentement, je lis ton livre, puis ça me fait du bien. On dirait que j'ai réalisé que de partager ces bobos-là, c'était un peu plus grand que moi. C'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça garder ça pour moi parce que ça met une espèce de tâche sur mon CV. T'sais. Mais en même temps, c'est correct d'avoir des tâches sur son CV. Puis je pense que avec le recul, tu sais, je t'aurais peut-être pas dit ça le 6 mois quand je refusais des entrevues en disant comme « lâchez-moi, j'en ai parlé, ça suffit ». Autant que maintenant, je réalise que c'est peut-être important de mettre des outils comme ça. Bien, des outils, je dis pas que c'est un outil, mais des référents à la portée des gens parce que j'en aurais pas parlé si ça allait pas mieux. Mm-hmm. Mais d'être capable de dire comme « ça fait 3 ans, puis ces bobos-là, je me reconnais plus dedans, ça m'appartient plus, tellement je suis ailleurs. » Pour moi, je trouve ça vraiment hot de voir une fille qui est passée par là puis qui est capable de dire comme « ça passe bel et bien, genre ça vaut la peine de s'accrocher parce que ça reste pas toute la vie puis ça fait tellement de bien d'arriver à se relever de ça que pour cette raison-là, j'ai pas de regrets. »
Puis aujourd'hui, comme là, tu m'en parles, est-ce que ça revient avec des mauvais souvenirs ou c'est complètement guéri?
Ah, je pense que ce sera jamais complètement guéri, puis j'ai appris justement à en parler en entrevue d'une façon plus détachée, mais effectivement, reste que pour toute ma vie sûrement, je vais avoir un souvenir concret et tangible sur mon corps de ces années-là, puis c'est pour ça qu'en entrevue, j'essaie de rester dans le pratique, mais je pense pas qu'on se remet tout à fait de ce souvenir-là. En fait, c'est plus un... Tu sais, je suis pas en colère contre moi, je m'en veux pas, mais ça reste quand même troublant de dire que la personne que t'es, c'est déjà suffisamment haïe pour vouloir s'infliger cette douleur-là. Ça, c'est difficile à se le pardonner, mais en essayant de focusser sur mon bonheur à chaque jour, ça m'évite de replonger là-dedans de façon négative. Tu sais, ça reste un... Puis même, tu sais, ça me rend encore émotive, mais... Il y a des... Mon Dieu! Il y a des journées où, justement, ça me rend tellement émotive, mais d'une toute autre façon, tu sais, ça m'arrive de juste pleurer puis de me dire « Hey, je suis donc bien bien, puis ça va donc bien mieux, puis c'est donc bien hot, puis ça efface pas ce qui s'est passé, mais ça le transforme définitivement, ouais.
Mm-hmm. » À travers tes chroniques puis le fait que tu te confies aux auditeurs, t'as constaté que ce qui fonctionnait, c'est parler de ton intimité.
Ouais.
Est-ce que tu te mets une limite sur les sujets que tu abordes puis ceux que tu n'abordes pas?
Bien, dans le sens où moi, j'ai carte blanche pour faire mes chroniques, donc je ne suis pas obligée de parler de ce dont je n'ai pas envie de parler. Je vois pas l'intérêt de parler, mettons, d'un bobo qui est pas encore guéri parce que je suis pas en mesure de m'aider, donc je suis pas en mesure d'aider les autres. Mais quand je me sens prête à en parler, je me retiens pas de le faire nécessairement. C'est Ricardo Troggi qui disait ça, tout le monde en parle. Qu'un de ses profs, il avait dit « Trouve ce qu'il y a de plus laid en toi, c'est ça ta vérité, c'est ça que ça vaut la peine d'exploiter. » Mm. Souvent, on a tendance à vouloir mettre de l'avant ce dont on est le plus fier, ce qui nous met le plus à notre avantage. Mais en même temps, c'est pas à ça que les gens s'accrochent. T'sais, les gens, ils en ont toutes là, des grisailles à l'intérieur de leur quotidien. Puis je pense qu'en abordant ça, c'est la façon d'être la plus proche de soi puis de sa vérité. Puis en même temps, comme je te disais tantôt, j'ai pas de formation. T'sais, moi, j'ai fait l'école de la vie. Fait que ce que je connais le mieux, c'est moi. Fait que j'ai tout intérêt à parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux. J'ai beau aller parler de ce que quelqu'un d'autre vit, t'auras jamais l'espèce d'input personnel que j'ai en parlant de mes émotions. Puis c'est un peu un journal, t'sais, un journal intime. Quasiment souvent, les gens me disent « Comment tu fais pour arriver à comme, mettre des mots sur une émotion qu'on sait pas trop comment ressentir? » J'y arrive en écrivant mes chroniques, souvent. C'est pour ça que c'est aussi salvateur pour moi, parce que d'écrire, ça, souvent, mon poignet trouve les réponses avant ma tête. Tu sais, je le laisse aller, je me dis « Ah, ben coudonc, c'est ça que je vivais. » Puis les images viennent avant la raison. Fait que ça se place comme mm-hmm. ça, ouais.
Puis tu le dis toi-même, là, t'es une fille qui a pas de filtre, mais dans la vie, est-ce que ça te nuit des fois de pas en avoir?
Oui, je peux dire, dans le sens où tu sais, j'ai pas d'exemple d'une situation où ouais. ça m'a vraiment nuit, mais je sais que je suis complètement transparente, puis ça peut me nuire dans la mesure où je pense pas que la perception que j'ai de moi-même, c'est la même perception que les gens ont de moi. Fait que souvent, je peux faire des jokes, mettons, où je me rabaisse un peu à la blague, parce que pour moi, ça fait partie de mon quotidien, puis là, les gens vont être comme choqués, vont se dire, voyons, elle a pas raison de penser ça. Fait que, tu sais, des fois, ça crée peut-être plus des petits malentendus ou de mal interpréter ce que je dis, mais généralement, je suis assez volubile. Fait que je suis aussi bonne pour me rattraper tout de suite après et faire comme hey, « Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est parce que je voulais dire ça, mais là, j'ai vu dans tes yeux que tu l'as interprété de même, mais en même temps, c'est pas là que je voulais aller pantoute. » Fait que je m'en sors comme ça, généralement.
Moi, dans la vie, c'est quelque chose sur quoi je travaille, d'avoir moins de filtres.
Ah oui?
Je me disais, en écrivant un livre, là, « Pas de filtre pour les nuls », là, quel conseil tu donnerais justement pour être un peu plus transparent.
Mais attends, mais moi, pourquoi toi, tu veux t'imposer un filtre? Qu'est-ce que tu veux filtrer? J'ai-tu le droit de te poser des questions dans ton entrevue?
Eh bien, tellement, tellement. Mais là, je m'attendais pas à ça.
Non, mais tu dis que tu voudrais avoir plus de filtres.
Ouais. Bien, c'est parce qu'on dirait que à travers... C'est quand même une grande question à répondre, là. Mais à
ce
travers...
Ce serait pour retenir quoi, mettons?
Bien, ce serait par crainte d'être jugé. T'sais, c'est vraiment ça, la première affaire, c'est de rentrer justement dans un moule. Puis là, dans les dernières années, j'ai essayé de sortir de plus en plus de ce moule-là puis d'avoir de moins en moins de filtres. Fait que c'est vraiment la peur du jugement, en fait. Mm.
Mais en même temps, du monde politically correct, il y en a partout, puis c'est rarement eux qui marquent le plus puis qui font la différence, tu sais. David Bowie, là, il choquait le monde en maudit. Puis là, je suis loin de me comparer à lui, mais tu sais, je pense à des Hubert ouais, Lenoir ouais. qu'on se dit, mon Dieu, il devrait se contrôler un peu. Mm-hmm. Mais en même temps... Ça donne rien de brider les gens, puis encore moins les personnalités publiques, parce que il y a une espèce de modèle dans lequel tout le monde veut rentrer, le moule de la parfaite animatrice, le parfait chroniqueur, mais comme des gens parfaits, ça n'existe pas. Fait que ça donne rien d'offrir un modèle qui représente pas les gens puis la réalité. Mais voilà. Où tu t'en allais avec ton affaire de pas de fil?
En fait, je veux savoir, qu'est-ce que tu écrirais dans un livre qui s'intitulerait Pas de fil pour les nuls.
Hey boy, je pense que on pourrait changer le titre de la fois où j'écris un livre, devenir Pas de fil pour les nuls, puis ça resterait.
Mais c'est vrai, parce que tu l'abordes même le moule, je pense qu'il y a un texte qui s'intitule ouais. comme ça. Puis ça fait vraiment partie des sujets que tu abordes. Puis à travers les commentaires justement des autres que tu reçois, là, les madames à Rouge FM, ou suite peut-être même à l'écriture de ton livre, c'est quoi les choses les plus ridicules que tu entends à ton sujet? Justement, tu sais, tantôt, tu parlais de la perception des autres ouais. par rapport à celle que tu as de toi. Qu'est-ce qui concorde pas des fois?
Écoute, tellement d'affaires, mais un moment donné, il faut que tu te dises que les gens ne te connaissent pas. Hein. Tu peux peux pas prendre personnel le commentaire de Gaétan qui te dit que t'es conne de penser de même parce qu'il te connaît pas, il sait pas d'où tu viens, tu sais pas d'où il vient, tu le connais pas non plus. Fait que si on se met à prendre ça personnel à chaque fois, il y a pas de fin, tu sais. Mais en même temps, moi, je me dis, j'essaie d'offrir ma vérité, puis ce en quoi je crois, puis ce que je suis prête à défendre. Fait que si moi, je fais une chronique avec des opinions féministes affirmées, puis assumées, puis que ça plaît pas aux gens parce que, mon Dieu, eux, ils me traitent de féminazie, parce que, effectivement, vouloir l'égalité homme-femme et l'Holocauste, c'est le même combat, mais je me dis, si ça les choque, eux, je peux vraiment rien faire parce que pour moi, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, c'est ce en quoi je crois. Puis si je le défends avec respect et avec humour et sarcasme et cynisme et ironie, si je le défends puis que ça fait pas ton affaire, je peux pas le prendre personnel parce que moi, j'y crois, tu sais. Puis pour moi, c'est la vérité. Fait qu'on peut avoir des opinions différentes, mais ça veut pas dire que je vais estimer plus l'opinion de quelqu'un qui pense différemment. Tant que c'est exprimé avec respect, je suis vraiment... Puis, tu sais, il y en a des gens là, qui m'écrivent pour me dire « Moi, je suis pas d'accord avec toi. » Puis, je suis toujours tellement contente d'avoir l'opinion des autres quand c'est exprimé avec respect et intelligence. Ah,
puis de façon constructive, là, ça, on s'entend qu'on est ouvert à ça. Mais, ouais, des fois, quand on partage pas les mêmes opinions, ça peut amener ailleurs. Hey, merci beaucoup. T'es vraiment inspirante, Rosalie Bonenfant.
Mais merci à toi. T'es bien fin.
Puis pour continuer de t'entendre, on peut syntoniser Rouge FM, le nouveau rouge.
Voilà, le nouveau rouge.
Donc, je dis plus ça maintenant. Mais donc, les vendredis, t'es là, dans, on est tous debout avec, aux côtés de ta mère, comme je le disais plus tôt.
Puis toutes les chroniques sont disponibles sur ma page Facebook si vous voulez pas vous lever à 7h du matin.
Ton livre, La fois où j'ai écrit un livre, est toujours disponible.
Oui, partout.
Merci.
En version encore. Audio et numérique aussi.
Ah oui, ça, pour l'aspect plus écologique de la chose.
Voilà.
Merci au restaurant Joséphine sur la rue Saint-Denis de nous avoir accueillis et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou mensonge.
Merci à toi. Hey, je suis contente que ça soit fini. J'ai eu peur de roter tout le long.
Ah ouais,
tu vois, ça c'est peut-être le filtre. Ben, j'ai eu mon filtre, je l'ai retenu. Ouais, c'est ça.